On est dimanche, il est 20h, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, sur le 93.9 FM et en streaming. Et tout de suite, c'est Museum Side, votre émission de critique d'exposition. En avant pour un tour du côté des musées.
On commence avec le mot du conte de Lautréamont. Bon, comme la rencontre fortuite d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table de dissection.
Museum Side.
Vous avez tenté de faire quelque chose qui n'est en aucune façon un palais, en aucune façon un lieu de décor, et disons-le tout de suite, en aucune façon un musée.
Museum Side, c'est l'émission de critique d'art de Radio Campus Paris.
Vassili Kandinsky est exposé au troisième étage à côté de Malevitch, comme il se doit.
Ceci n'est pas un musée.
Ah, donc si je trouve Malevitch, pour Kandinsky, je brûle.
On parlera d'exposition d'art.
Ce qui donne un art à une société, dit André Gide, c'est le besoin qu'elle en a, et non une compréhension plus ou moins grande.
On va se balader dans Paris, de musée en musée, toujours en compagnie d'un invité. Ce soir, pour notre septième numéro, nous vous proposons en première partie une immersion dans le palais de Tokyo. Je suis allée rencontrer Johan Gourmel dans les salles de l'exposition collective dont il a assuré le commissariat sous le regard de machines pleines d'amour et de grâce. Nous évoquerons également en plateau, avec Agathe et tout le monde, les quatre expositions monographiques d'Emmanuel Saunier, Abraham Poincheval, Dorian Godin, Mel O'Callaghan, Taro Izumi et l'installation d'Emmanuel Lenné. En deuxième partie, nous parlerons de la rétrospective de Cy Twombly, présentée actuellement au Centre Pompidou. Mais tout de suite, c'est le moment de faire un tour d'horizon de nos chroniques. Marion, sur quelle exposition littéraire as-tu jeté ton dévolu ?
Bonjour, aujourd'hui je vous emmène au Centre Wallonie-Bruxelles pour une exposition sur Michaud.
Charlotte, on te retrouve dans la deuxième partie de l'émission, bonsoir.
Bonsoir.
Marie-Hélène, alors tu nous parles de photos, comme chaque mois, et cette fois-ci tu t'es rendue à la Fondation Henri Cartier-Bresson.
Et oui, tout à fait, à tout à l'heure.
Et on commence par toi Agathe, et ta chronique, et pourquoi pas les collections permanentes du Musée de l'Homme.
Alors le Musée de l'Homme invite le visiteur à se poser trois questions. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? En suivant une muséographie innovante, puisque très souvent immersive, avec donc des dispositifs sensoriels, des jeux, des reconstitutions archéologiques qui sont très impressionnantes et très intéressantes. L'idée est de démontrer que les préjugés et le racisme sont le résultat d'une construction sociale qu'un éclairage scientifique démonte et déconstruit avec facilité et efficacité. Alors ces collections du musée sont très hétéroclites, comme vous le verrez, elles sont l'héritage d'un musée ancien d'ethnographie du Trocadéro et aussi du Muséum d'histoire naturelle. Elles sont mises en valeur à travers un parcours thématique qui témoigne en fait des réflexions qui ont été menées par les scientifiques, les concepteurs autour de la naissance par exemple, autour du genre, autour de la langue, dans les différentes cultures mondiales pour prendre conscience en fait de notre diversité humaine. La seconde partie reconstitue les traces du passé et raconte notamment comment la science de la préhistoire a éclos au XIXe siècle. Elle parle évidemment aussi de sa mise en image à travers les représentations et on a tous en tête le stéréotype partagé de la brute préhistorique qu'elle va déconstruire par exemple. Et dans cette troisième partie, on aborde plutôt l'avenir et la menace des activités humaines sur la diversité biologique des êtres vivants et des végétaux. On parle d'espèces menacées comme de la biodiversité agricole en danger.
Et le Musée de l'Homme en plus qui a rouvert il y a
peu de temps. En 2015,
c'est ça.
Absolument.
Et ce soir, nous vous proposons donc une plongée in situ au cœur de l'exposition collective sous le regard de machines pleines d'amour et de grâce présentée au Palais de Tokyo jusqu'au 8 mai. Johan Gourmel, le commissaire, s'est baladé avec nous entre les œuvres.
Déjà, d'où ça vient ce terme sous le regard de machines pleines d'amour et de grâce?
Alors, le titre de l'exposition, il vient du titre d'un poème de Richard Brautigan, qui est un auteur américain. Il écrit ce poème en 1967. Et dans celui-ci, il imagine une forme d'utopie, ce qu'il appelle une harmonie mutuellement programmée entre les êtres humains, les animaux et les machines. Il l'appelle même de ses voeux, cette espèce d'Éden, comme ça, où comme il le dit, il appelle les forêts cybernétiques dans lesquelles le cerf se promènerait parmi les ordinateurs, etc. Et il termine en disant que peut-être que grâce, je le résume, hein, mais grâce à la technologie, nous serions libérés de nos labeurs. Mais moi, il y avait une ambiguïté qui m'intéressait dans ce poème, qui est donc les deux derniers vers de ce poème qui ont donné son titre, où il explique que ces machines créées par l'homme ont beau être pleines d'amour et de grâce, on resterait sous leur regard, sous leur surveillance, sous leur domination. Donc il y avait cette forme de paradoxe ou d'ambiguïté dans la relation à la technologie qui m'intéressait dans ce poème donc, écrit il y a exactement 50 ans. Et ce qui m'a intéressé, c'est de réunir des artistes qui aujourd'hui réfléchissent justement à l'impact de ces technologies sur la manière dont on vit ensemble, dont on se représente en tant qu'individu, dont on travaille, dont on... Voilà, c'était pas tant la question de la technologie en soi que les usages qu'elle suggère qui m'intéressaient.
Alors, tu as conçu ton parcours... en fait, il y a deux possibilités de sens pour ce parcours. Et je pense que chaque sens est voulu et pensé. Est-ce que tu peux nous expliquer les différents sens?
Bien sûr, donc on commence l'exposition avec ce poème de Richard Brautigan. Et il y avait effectivement un parcours que j'ai souhaité laisser ouvert pour que chaque visiteur puisse faire d'une certaine manière son propre montage des différentes œuvres dans l'exposition. Donc il y a un parcours qui est... il suffit simplement de rentrer et de prendre la première salle à droite, où là, finalement, dans le cours, dans ce parcours, on commence par des installations qui sont peut-être un peu plus immersives, un peu plus colorées, qui nous parlent d'une forme de relation aux émotions, aux affects. Et plus ça va, plus on avance dans le parcours, plus finalement la question de l'humain ou de la représentation de l'humain, du corps, disparaît. Il y a une forme de disparition, d'une certaine manière, de la présence humaine, qui est également présente si on décide de prendre le parcours de gauche, où là, on arrive directement sur des pièces d'une artiste danoise qui s'appelle Marie Lundt, qui sont... il y a un ensemble de pièces. Il y a tout d'abord des sculptures qui sont des moulages de l'intérieur de jeans qu'elle réalise en béton. Donc on est face finalement à des corps tronqués, on ne voit que les jambes, dans un mouvement qui serait comme fossilisé, comme cristallisé. Donc il y a à nouveau, dès le début, là, si on prend l'exposition dans ce sens, une forme de corps qui serait d'une certaine manière absent, d'une relation au corps qui serait absente. Et puis, accroché au mur, on voit un ensemble de... Alors, on peut les appeler des peintures ou des tableaux, en tout cas, qui sont des rideaux qu'elle a prélevés d'une école maternelle à Copenhague. Des rideaux qui ont été, au fur et à mesure de leur exposition au soleil, dont les couleurs se sont délavées. Donc on a comme c'est vraiment le principe de l'écriture photographique, c'est-à-dire on expose une surface sensible au soleil, et au fur et à mesure de cette exposition, cette surface change de couleur. Mais là c'est la même chose avec des rideaux, mais sur plus de 20 ans ou 25 ans quasiment, donc à l'échelle d'une génération. Et donc ces rideaux, elle les a simplement tirés sur châssis, donc elle les présente comme des peintures, comme des toiles vraiment tirées sur des châssis en bois, et on a ce défilé, la série s'intitule Stills. Donc vraiment cette idée du film, hein, du photogramme de film, et on a comme ça une espèce de déroulé, comme un film étendu dans le temps, donc à l'échelle donc d'une génération humaine.
Et alors après, on a une pièce qui reprend un symbole, qui est le symbole du smiley, si je ne me trompe pas, mais peut-être que tu pourras m'en dire plus.
Alors c'est pas exactement le smiley, en fait,
c'est Amazon.
Voilà, c'est, on rejoint cette idée en tout cas d'une figuration du sourire humain. En fait, il s'agit d'une installation d'un artiste portugais qui s'appelle Pedro Baratero. Il s'agit de 11 éléments en bois recouverts de ciment qui ont Toutes ces sculptures renvoient à des échelles domestiques, à des échelles de tables, de bancs, de chaises, de bars éventuellement. Et toutes ces sculptures ont en commun de reprendre donc une très légère courbe qui peut évoquer une parenthèse, par exemple, mais qui, pour l'artiste, proviennent effectivement du logo d'Amazon, qui lui-même provient d'un sourire humain stylisé. Et pour lui, le fait qu'une multinationale comme Amazon, qui fait donc du commerce d'objets en ligne, se saisisse finalement de ce geste d'empathie finalement entre deux êtres humains qui serait le sourire, cristallise finalement justement les enjeux ou l'impact ou la manière dont les grandes entreprises vont chercher à se saisir d'un certain nombre d'émotions humaines, d'affects, pour vendre des objets. Donc il reproduit l'idée d'un espèce de parc de sculptures qui pourrait être un foyer finalement pour les travailleurs de cette entreprise. Et puis posé dans un coin, on a trois bassines noires dans lesquelles on trouve ce qui pourrait s'apparenter à des produits dérivés, des mugs, des t-shirts, des casquettes, qui reprennent en le multipliant toujours ce même signe comme un espèce de logo qui serait devenu comme ça reproduit encore et encore, vraiment l'idée d'un espèce de langage, on pourrait dire corporate, ou de, qui fait que cette idée du sourire devient un signe presque neutralisé d'une certaine manière.
Et il y a eu aussi une vidéo qui est un peu plus, parce que j'ai envie de dire les sculptures sont, on peut les toucher, on peut les appréhender, il y a un rapport plus direct avec les sculptures, et la vidéo est un peu plus énigmatique, il faut prendre le temps de se plonger dedans, c'est un ensemble de collages, un ensemble d'images aussi liées à la société de consommation.
Voilà, exactement. Alors, moi, je conseille de toute façon de prendre du temps, qu'il s'agisse d'une vidéo ou de sculpture, d'une manière générale dans l'exposition. Je vous disais qu'il y avait deux parcours possibles. Je pense que c'est vraiment à chacun d'essayer de s'approprier finalement les œuvres par sa propre expérience, par le fait de déambuler, de se perdre éventuellement dans les différentes salles. Mais pour revenir donc à cette vidéo de Pedro Baratero qui s'intitule « The Current Situation », donc la situation actuelle. En fait, elle provient de deux événements auxquels l'artiste assiste alors qu'il est en train de travailler dans son atelier à Lisbonne. La première chose, c'est qu'il remarque que tous les palmiers qui sont plantés dans sa rue sont en train d'être coupés. Ces palmiers étant malades, la municipalité décide de les couper. Et puis, quand il se renseigne un peu sur la nature de ces plantes, de ces arbres, en fait, il réalise qu'ils proviennent du moment où le Portugal était une puissance coloniale, et notamment en Afrique, et que tous ces palmiers proviennent de ces, à l'époque, colonies portugaises, donc l'Angola ou le Mozambique. Et le fait qu'ils soient aujourd'hui coupés, qu'ils décident d'être coupés, c'est une forme de disparition de cette mémoire coloniale. Donc ça, c'est une des premières choses à laquelle il assiste. Et la deuxième, c'est qu'au même moment, il y a un certain nombre de manifestations devant le Parlement portugais, notamment des manifestations contre les politiques d'austérité menées à l'origine par l'Union européenne, qui considère, entre autres, l'économie portugaise comme une économie toxique pour le reste de l'Union. Donc, pour lui, il y a un rapprochement, il opère un rapprochement entre ces deux événements, entre d'une part la disparition d'un passé ou des traces d'une histoire coloniale, et aujourd'hui le fait que l'Union européenne considère l'économie portugaise comme une économie toxique. Une espèce de rapprochement comme ça qu'il opère. Et dans le film, effectivement, par le biais d'un collage d'images, donc on voit des plans sur ces palmiers, entre autres, mais également d'autres images que je vous invite à découvrir, il essaye de faire un rapprochement sur la manière dont l'économie essaye de calquer son fonctionnement sur des phénomènes naturels. Donc il va reprendre cette idée du chaos naturel. En tout cas, il y a à nouveau cette volonté de réfléchir des schémas économiques en fonction de schémas, là en l'occurrence naturels, mais c'est quelque chose qui traverse l'exposition. C'est cette relation ou cette réflexion, je crois, sur l'impact de l'économie libérale, je crois, sur la manière dont dont on vit ensemble, dont on se pense en tant que sujet, dont on essaye de déconstruire aussi, enfin que je crois, l'impact, l'utilisation de la technologie par, par l'économie mondiale, on va dire, à mon avis, pose un certain nombre de questions que les artistes abordent sur la représentation de ce qu'est un sujet, de ce qu'est un objet, de la relation entre, qu'on peut avoir avec les objets qui nous entourent, que les objets peuvent avoir entre eux, etc.
Alors, maintenant, je pense à une... Quand on avance un petit peu plus dans l'exposition, je pense à une vidéo qui, moi, m'a beaucoup touchée dans sa simplicité. Donc, c'est Marjorie Keller qui fait, dans des espèces de vidéos un peu maladroites, parce qu'elle dit en plus que c'est pour ses premières réalisations, elle fait un peu l'inventaire de tout ce qu'elle a dans sa maison pour, il me semble, les assurances au départ, un devis d'assurance, et voilà. Et donc, on voit en effet cette accumulation d'objets. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette vidéo ?
Bien sûr, c'est une vidéo, un film à l'origine, un film 16 mm, enfin tourné en 16 mm d'une artiste américaine qui s'appelle Marjorie Keller, qui vient vraiment du cinéma expérimental. C'est un film qui date de 1974 et effectivement, elle retourne dans sa maison d'enfance pour documenter la totalité des biens qui la composent, les objets, les cadres, les bibelots, les meubles, etc. Donc on la suit, effectivement, le film, l'image tremble un peu, caméra portée à l'épaule, vraiment reprend, on est proche d'une esthétique de film de famille, et effectivement, à l'origine, ces images, elle les fait pour une compagnie d'assurance. Mais évidemment, elle va dépasser cette idée d'inventaire, donc on la suit de pièce en pièce, documenter tous ces objets, et puis la bande-son, consiste en discussion de membres, ce qu'on imagine être sa famille, les grands-parents, les petits-enfants, etc., qui discutent. On a le sentiment qu'ils sont réunis autour de la table à manger et qu'ils sont en train de parler, mais on ne les voit jamais à l'écran. Donc on suit finalement cette caméra qui nous déplace de salle en salle pendant qu'on entend donc ces discussions, et petit à petit on se retrouve presque dans la position du cambrioleur d'une certaine manière qui est en train de fouiller dans les placards hein, pendant que la famille est en train de déjeuner. Et puis petit à petit, le film dure 18 minutes, il y a un sentiment un peu malsain, je trouve, qui se produit, c'est qu'on a le sentiment que finalement tous ces objets sont les seuls témoins d'une vie qui a disparu. C'est-à-dire que puisqu'on ne voit à aucun moment aucun être humain présent à l'image, on a simplement cette accumulation d'objets filmés qui seraient presque les ultimes traces finalement, alors là en l'occurrence d'une famille, mais si on étend un petit peu, presque d'une civilisation qui n'existerait plus, comme si les objets avaient survécu d'une certaine manière à l'humanité. Et c'est un film qui... pour moi, était important dans la construction de l'exposition et que j'avais tout de suite envie de mettre en relation avec le travail d'un autre artiste, beaucoup plus jeune, et qui s'appelle Michael E. Smith, qui est également un artiste américain, et qui, lui, est originaire de Détroit, qui est vraiment la ville un peu symbole, la ville post-industrielle, d'une certaine manière, qui a vraiment connu une crise extrêmement forte de son industrie automobile, notamment. Et tout son travail consiste à essayer de nous faire sentir la violence que l'homme peut faire subir à son environnement, ou à ses semblables. Il présente quatre œuvres dans une grande salle assez vide, qui est éclairée uniquement par la lumière naturelle, et puis quand tombe la nuit, il y a des néons qui se mettent en route et qui éclairent cette pièce de manière très froide, un peu comme un entrepôt. Et tous les objets sont témoins, donc à un peu plus de 40 ans de différence par rapport au film de Marjorie Keller, d'un certain modèle de société qui aurait disparu. C'est-à-dire que le modèle de société que nous présente le film de Marjorie Keller, qui serait celui qui reposerait sur une accumulation de biens, de consommation, etc., d'une certaine façon, le travail de Michael E. Smith nous montre que ce modèle n'est plus opérant aujourd'hui. Et ces sculptures, j'en décris une par exemple, on a une table qui ressemble à une table de jardin avec un plateau en verre. Sur les pieds, sur l'armature en fer de cette table, il a collé deux poissons naturalisés, qui sont des poissons assez particuliers. C'est une sorte de poisson perroquet avec des becs, puisqu'ils se nourrissent dans les coraux, donc ils vont creuser comme ça le corail pour se nourrir. Ces deux poissons sont gonflés comme ça, ressemblent à des petits ballons. Et puis si on regarde la table, si on regarde par-dessus, en fait, on se rend compte que le plateau en verre est légèrement irisé, et donc que ce plateau en verre reproduit de manière complètement artificielle l'idée de l'eau, de l'élément aquatique. Donc si on regarde ces poissons à travers ce plateau en verre, on a presque l'impression de les regarder dans leur environnement naturel, sauf qu'évidemment ils sont naturalisés et que leur forme un peu blanchâtre, un peu ovoïde, peut également évoquer des crânes humains. Donc il y a vraiment, ce sont des sculptures qui nécessitent de regarder un peu en dessous, un peu par au-dessus, etc., qu'on passe un peu de temps avec elles, mais je crois qu'elles nous adressent des images assez fortes, là aussi, de ce qui pourrait survenir après l'homme, après la fin de l'humanité. Donc, pour moi, l'installation ou l'ensemble de pièces de Michael Smith, c'est un petit peu une image de ce qui pourrait se passer après l'accident. Après la fin de l'homme.
Alors, il y a deux environnements, il y a, je trouve, deux pièces marquantes qui sont, qui sont des environnements sensoriels pour le spectateur. Là, en plus, on est dedans, donc il y a des écrans qui projettent parfois des corps, parfois des objets. Est-ce que tu peux nous parler de ces artistes-là? Et je pense aussi, en fait, le deuxième environnement, je pense à celui... justement, qui est vraiment, qui change en fonction de la technologie, des ressentis des gens, donc l'environnement du début, si on prend le parcours vers la droite.
Alors, je vais commencer par parler de cette installation qui est effectivement située dès l'entrée de l'exposition, si tant est qu'on veuille bien suivre ce parcours. C'est une installation, en tout cas un ensemble d'œuvres d'une artiste qui s'appelle Mika Tajima, qui est américaine mais d'origine japonaise. Immédiatement, en regard de ce court poème de Richard Brautigan, on a un écran qui fait défiler ce qui s'apparente, ce qui ressemble à des tweets. Ces tweets, ils sont en fait générés par un algorithme, par un programme qui, en temps réel, va chercher dans tous les tweets postés à Paris, va chercher les termes qui sont les plus fréquemment postés. Et à partir de ces termes, il va essayer de reconstruire une syntaxe, une forme de grammaire, essayer de reconstruire des phrases. Donc on a déjà cette idée d'une, pour moi, d'une forme de poésie qui serait générée par la machine à partir de ce que les gens tweetent à Paris. Et à partir de là, on a un deuxième algorithme qui se met en route, qui va isoler ou qui va repérer les termes qui renvoient à des émotions positives ou négatives. Et en fonction de ces termes, il y a un signal qui est envoyé à des sculptures qui sont composées d'ampoules reliées au réseau. Et en fonction de la teneur de ces émotions, c'est-à-dire positive, on va avoir des ampoules qui varient de couleur et qui vont aller plutôt vers le rose et violet. Et puis à l'inverse, si on a des termes négatifs, je déteste, je suis malheureux, etc., on va avoir plutôt une coloration jaune-orangée. Et puis on a parfois un ton blanc neutre, donc qui renverrait à cette idée d'une émotion neutre, qui est assez jolie, je trouve, où finalement, là, les émotions positives et négatives trouveraient une forme d'équilibre. Donc ça, c'est une des installations de Mika Tajima, une des œuvres de Mika Tajima qu'on voit dès l'entrée de l'exposition. Et quand on rentre dans la salle qui réunit un ensemble de ces pièces, on va retrouver un certain nombre d'ampoules qui sont liées à ce flux. Et en regard, on a un autre écran qui, en temps réel, diffuse l'évolution du cours de l'or. Et là, cet écran est relié à une autre sculpture qui, elle, varie donc d'une ampoule, qui varie, elle, du blanc chaud au blanc froid. Et ce qui était vraiment important pour l'artiste, c'était qu'on, dans une même salle, traduit de façon visuelle et de manière comme ça un peu synthétique, enfin uniquement avec un flux coloré, lumineux, on ait deux types de discours, à la fois un discours qui serait lié vraiment à des paramètres économiques, l'évolution du cours de l'or, et puis des choses qui soient plus spéculatives, c'est-à-dire la manière dont aujourd'hui des algorithmes peuvent essayer de déterminer une humeur globale et de façon un peu standardisée, comme ça, ou synthétisée. C'est effectivement cette pièce qui, en fonction de son parcours à nouveau, qui peut ouvrir l'exposition. Et puis en continuant, on va arriver dans une autre salle avec une installation vidéo d'Isabelle Cornaro qui, elle, reprend des éléments des films de Walt Disney, d'Alice au Pays des Merveilles, de Fantasia et de Blanche-Neige, qu'elle va mélanger, voire avec des effets de surimpression, avec des extraits de films qu'elle a réalisés, où on va avoir des objets type des bibelots, des bouteilles de parfum, etc., qui peuvent représenter finalement des émotions, en tout cas, qui peuvent avoir une certaine forme de valeur affective, qui sera différente d'une personne à une autre. Et puis, on va avoir d'autres plans sur des pièces de monnaie ou sur des billets. Donc là, comment des objets qui sont complètement abstraits à l'origine peuvent avoir une valeur monétaire qui va être partagée par tous. Et puis, en continuant, alors je suis très bref sur ces pièces, on arrive dans une installation assez vaste qui, pour moi, était vraiment le nœud ou le cœur de l'exposition, qui est une installation d'un artiste de Hong Kong qui s'appelle Lee Kit, qui vit aujourd'hui à Taïwan, qui a lui aussi conçu cette pièce, cette installation pour l'exposition, où là on se retrouve dans un espace plongé dans à nouveau une forme de pénombre, et on va voir 7 vidéoprojecteurs qui sont posés au sol ou sur des boîtes en plastique, ce qui fait que quand nous, en tant que visiteurs, on traverse cette salle, on va effectivement avoir nos ombres, l'ombre de nos corps qui va être projetée sur les images qui sont censées être projetées. Donc à nouveau, une espèce de présence un peu en creux du corps humain. Les images qui sont projetées par ces vidéoprojecteurs, les films qui sont présentés, ce sont des très courtes séquences qui peuvent être à la fois des séquences tirées vraiment du quotidien, quelques grains de poussière qui flottent dans un rayon de soleil, ou alors un extrait d'un film, je dirais érotico-dépressif coréen, mais dont les scènes vont être gelées à certains moments, comme s'il s'agissait de scènes de genre, de peinture. Liquid, c'est un artiste qui a une formation de peintre à l'origine et qui a assez rapidement décidé d'abandonner, pas complètement, mais en tout cas de laisser un peu de côté la toile et les pinceaux pour considérer l'espace d'exposition comme une toile vierge. Donc il vient vraiment travailler des questions de composition, de perspective, de couleur, de lumière, mais à l'échelle d'une salle d'exposition. Et tout ce qu'il essaie de saisir, je crois, à travers ces différents films, alors on trouve également des petits gestes de peinture ou des peintures qui sont également présentées. Donc tout ça se mêle dans un environnement dans lequel on est vraiment invité à se perdre, qui rejoue parfois à presque un espace domestique avec des lampes pour avoir chez soi. C'est essayer de saisir des émotions qui, lui, le traversent, mais qui ne sont pas uniquement ses émotions personnelles, mais qui seraient plus largement des affects qui traverseraient le corps social. Donc, à nouveau, c'est vraiment une expérience à vivre. C'est quelque chose qui est assez difficile à mettre en mots, où j'invite chacun à essayer de trouver les mots pour le dire. Mais en tout cas, en utilisant véritablement le langage de l'art, le langage des formes, de la vidéo, de la sculpture, de la peinture, il va essayer de nous proposer un espace un peu suspendu, un temps finalement qui serait peut-être celui de l'ennui, du désœuvrement, du désir, de l'attente, d'un désir qui serait légèrement contrarié, avec dans cet espace un peu blanc, un peu laiteux.
Du coup, si je ne me trompe pas, on a fini le tour. Là, est-ce qu'on a oublié quelque chose ? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur l'exposition ?
J'attire. Il y a une dernière pièce qui n'en est pas complètement une, qui pour moi était importante dans la construction de l'exposition, qui peut être à nouveau, en fonction du parcours, soit la première presque, soit la dernière, soit le prologue, soit l'épilogue de cette exposition. C'est une série de courtes émissions qui étaient diffusées à la télévision française entre 65 et 66, dans une émission qui s'appelait Dim Dam Dom, dans cette chaîne qui s'appelait l'ORTF. Il s'agit d'une comédie musicale graphique dont les dessins sont réalisés par Jean-Claude Forest, qui est le créateur, le dessinateur de Barbarella, qui sera adapté au cinéma par Roger Vadim un peu plus tard. C'est une série d'animations qui nous raconte les histoires de Marie Mathématique, c'est le nom de cette jeune femme, ce personnage, qui est censé avoir 16 ans au 29e siècle, pardon. Et donc toute la narration est chantée par Serge Gainsbourg, qui a composé la musique, et qui chante des textes d'André Ruelland, qui a écrit des poèmes sous la forme du virelet, qui est une forme poétique moyenâgeuse. Et donc on suit à travers 6 épisodes les aventures de cette jeune femme au 29e siècle. C'est assez psychédélique, c'est une espèce d'initiation sexuelle peut-être de cette jeune femme. Et ce qui m'intéressait moi particulièrement, dans ce que je trouve très touchant et qui m'intéressait dans le cadre de cette exposition, c'est que dans les épisodes de Marie Mathématique, tout le monde est amoureux de Marie Mathématique. Les hommes, les femmes, les cailloux, les objets, les extraterrestres, les machines. D'un seul coup, il n'y a plus de distinction finalement entre le sujet et l'objet, entre l'animé et l'inanimé. Et c'est, je crois, quelque chose qui traverse d'une certaine manière l'ensemble des œuvres présentes dans cette exposition.
Alors, il n'y a pas que l'exposition collective au Palais de Tokyo en ce moment. Agathe, comme moi d'ailleurs, nous avons été intriguées par un rocher au cœur du sous-sol du Palais de Tokyo, dans lequel un artiste bien connu pour ses expériences extrêmes s'est glissé, Abraham Poincheval. Et moi, quand j'y suis allée, il était carrément dedans. Mais toi, je crois pas.
Non, ça, c'est une chance de l'avoir vu habiter, je dois dire. Parce que c'est vrai que donc Abraham Poincheval, qui vit et travaille à Marseille, a habité un rocher pendant une semaine. Et on pouvait voir auparavant en fait, l'intérieur du rocher avec le dispositif nécessaire pour qu'il puisse ranger sa nourriture.
Manger et boire.
Voilà, absolument. Et puis autre. Et il paraît que donc, l'enregistrement, en fait, il garde un journal de bord pour enregistrer, garder une trace en fait, de cette expérience. C'est pour lui une habitude, quelque part, parce qu'il a déjà habité un ours au musée de la chasse à Paris, il y a quelque temps, qu'on peut d'ailleurs voir lors de notre visite au Palais de Tokyo, avec des esquisses d'ailleurs, qui montrent bien les différents endroits, absolument, les dispositifs nécessaires pour garder un peu sa santé mentale, en fait, quelque part, parce que... Il reste enfermé dans un univers minéral ou animal, mais qui est mort aussi. Hein. Donc, il y a aussi cette idée un peu lourde. Et là, il va repousser un peu ses limites en couvant un œuf. Donc, j'irai sans doute le voir. Vous pourrez le voir à partir du 29 mars. Il va couver son œuf pendant 21 ou 26 jours jusqu'à l'éclosion espérée. Recouvert donc d'un manteau dessiné par un artiste coréen, traditionnel coréen. Et il sera évidemment entouré de ses provisions. Donc c'est tout un voyage qu'il nous propose, un voyage parce que lui, il cherche à faire l'expérience du monde à travers ses différentes approches de l'humain et de l'animal. Voilà,
c'est tout dit. Alors, pas loin du rocher, on a une installation en trompe-l'œil d'Emmanuel Lenné qui s'appelle « Where the rubber of ourselves meets the road of the wider world ». Voilà, c'est long. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est une installation qui mêle ordinateur, machine et plantes naturelles. La machine devient vraiment prolongation de l'homme et envahit l'espace. Je sais pas toi comment tu l'as ressenti. Mais c'est hyper intéressant parce que donc on a un mélange de machines et d'hommes. On est dans un bureau. L'installation s'inspire des réflexions menées par de nombreux théoriciens justement sur la figure du cyborg et le corps machinique dans le prolongement de l'exposition collective dont on a parlé juste avant. Emmanuelle Lenné, elle avait déjà présenté son atelier lors de la Biennale d'art contemporain de Lyon en 2015. Et ici, elle prolonge vraiment l'espace du bureau avec des photographies de ce même espace vues sous un autre angle, en un véritable arrêt sur image. Et donc, ça fait une espèce... Elle abolit finalement les frontières des murs et ça donne un effet assez incroyable. Et elle présente cette installation en parallèle à son exposition personnelle qui va ouvrir dans le centre d'art contemporain Béton Salon. Voilà, il y a des expositions monographiques hyper intéressantes. Une autre, notamment, donc après Poincheval et Emmanuel Lenné, c'est Taro Izumi.
Oui, Taro Izumi, qui vit à Tokyo, son exposition qui s'appelle Pan, et qui montre une espèce d'installation, enfin, c'est une exposition qui regroupe installations, sculptures et vidéos. En fait, il va servir de photographie, notamment de footballeurs ou du monde sportif, qu'il va recréer. En recréant, parce que ce sont donc souvent des poses de personnes arrêtées dans l'espace, du footballeur en train de tirer un but, par exemple. Et donc, il va recréer tout un dispositif.
C'est complètement fou.
Complètement fou. Tout un socle, en fait, sur lequel le corps de la personne qui va rejouer le mouvement peut se reposer. Et on voit devant nous ce vrai socle, en fait, donc qui nous fait penser aussi à toute une réinterprétation de la sculpture, du socle en sculpture. Et par-dessus est présentée l'origine, en fait, la photographie qui a servi, en fait, de point de départ à ces espèces de reconstitutions qui met en scène le corps de façon parodique et qui a beaucoup d'humour.
Ça fait comme des petites machines à lancer des trucs en bois.
Et puis il en rajoute.
La personne est tête en bas.
Absolument. toute une structure avec beaucoup d'arborescence. Quoi. Oui.
Alors, une autre installation aussi très poétique, c'est celle d'Emmanuel Saunier. Il rend dans son œuvre Black Dancing un bel hommage au pianiste de jazz Thelonious Monk. Et en fait, il reprend les notes du standard de jazz Round Midnight à l'aide de morceaux de bois sculptés et colorés d'encre. Donc, c'est des morceaux de bois tout noirs qui recréent le style improvisé du jazz. Ça fait un peu comme des notes, ça fait toute une partition. Et on ressent la musique sans l'entendre, c'est surprenant et c'est très beau.
Oui, ça marche. Hein. Moi, ça j'ai fonctionne. Trouvé qu'il y avait un vrai rythme. Ouais. C'est assez chouette de se retrouver. C'est une installation immersive aussi. On se retrouve au centre totalement des pièces.
Oui, parce qu'il y a trois pièces. Moi, j'ai parlé que d'une, mais en fait, c'est un ensemble de pièces. Avec la première pièce, c'est plutôt des pierres. En fait, on marche dessus.
On marche. Ce qui est très plaisant. Pour une fois, on peut marcher sur l'œuvre. On ne dit pas non.
Au début, j'ai un peu hésité au début. Et en fait, j'ai suivi un spectateur qui me faisait
comme ça. Moi aussi, j'ai fait pareil.
Et du coup, la dernière exposition en trois salles que nous avons sélectionnée, bon, il y en a d'autres, hein, mais c'est celle de Mel O'Callaghan qui s'intitule Dangerous on the Way. Et en fait, elle s'est rendue dans le nord-est de Bornéo en Indonésie afin d'assister à la récolte traditionnelle de nids d'oiseaux. C'est un rituel particulièrement périlleux qui est réalisé deux fois par an par les populations Orang Sungai à plus de 120 mètres de haut jusqu'au sommet de la grotte de Simut Puti, la grotte blanche de Gomantong. Ça fait beaucoup de noms indonésiens. Et en fait, en mêlant sculpture, performance et vidéo, Dangerous on the Way s'attache à l'extasis que ce rituel peut permettre d'atteindre. C'est un espèce de plaisir. C'est un état physique et mental décrit par la philosophie grecque comme le fait de se trouver hors de soi. Et donc, il y a donc trois salles avec trois atmosphères bien différentes. La première salle avec un énorme bol chantant, un bout de bois, c'est une ambiance très spirituelle. Dans la deuxième salle, il y a donc la vidéo avec ses ramasseurs de nids. On est vraiment plongé dans la grotte. Et la troisième salle, c'est une salle blanche avec des formes géométriques, dans un geste un peu d'apaisement.
Un peu couloir.
Toi, tu t'es senti comment dans ces trois salles?
Moi, j'ai préféré vraiment la vidéo, hein, de loin, parce que j'ai trouvé que c'était donc à des dimensions spectaculaires, vu que l'écran prenait vraiment toute la place de la salle. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'à un moment donné, on a beau savoir que c'est dans une grotte et qu'ils vont ramasser ces nids en hauteur, on a l'impression qu'ils ne font que descendre, ces hommes.
Et donc, puis, ils sont en équilibre sur une petite corde, comme ça.
C'est en train de fumer, à peine attachée avec une main. C'est une ambiance très étonnante, effectivement. Et elle filme, en fait, la paroi aussi. Et cette descente en permanente, qui est très spectaculaire. On a des effets de matière rendus qui sont très beaux. J'ai trouvé ça très poétique.
Et du coup, les autres salles mettent aussi dans un autre état. Et je crois qu'il y aura des performances ou des visites d'idées dans la première salle. Ouais. Ouais. Dans la première salle, donc avec cet énorme bol chantant.
Oui, c'est ça, en fait.
Oui, un bol chantant, un arbre.
Tu l'as dit, je crois qu'elle se sert effectivement de l'espace comme une plateforme pour atteindre l'extase dans l'espace. Et en fait, c'est très souvent lié aussi au thème de l'artiste contemporain qui va refaire son travail aux dimensions de son atelier ou recalculer comment s'intègre et vice-versa, comment l'atelier peut être intégré au travail ou l'inverse. Et c'est une artiste australienne qui vit et travaille à Paris.
Voilà.
Faut pas manquer.
Donc, toutes les expositions présentées actuellement au Palais de Tokyo, dont l'exposition collective Sous le regard de machines pleines d'amour et de grâce, sont à voir jusqu'au 8 mai 2017. Et tout de suite, on écoute Let It Happen de Tame Impala.
It's always a
c'était « Let it happen » de Tame Impala. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, sur le 93.9 FM, et vous écoutez Museum Side, votre émission de critique d'exposition. Et Marion, c'est l'heure de ta chronique, comme chaque mois, qui porte sur une exposition littéraire.
Oui Florence, en cette fin de semaine, au moment où certains peuvent avoir cette petite boule au ventre de retour au travail demain matin, où d'autres n'auraient pas envie de se confronter à ce qu'ils n'ont pas fait mais qu'ils auraient dû préparer, bref, à tous ceux pour qui ces dimanches soirs ont souvent la couleur grise d'une rencontre amère avec soi-même, sans parfois même se l'expliquer, je vous conseille de vous rendre dans cette belle exposition sur Henri Michaux, face à face, au centre Wallonie-Bruxelles qui se trouve en vis-à-vis de Beaubourg et qui est ouverte jusqu'au 21 mai. Michaux était de ceux qui ne sont pas bien dans leur corps. Il s'aborde, mais ne se saborde pas, au contraire. Par l'écriture et l'art pictural, Michaux fait naître son être, ses multiples réalités et ses mystères. Il le dit lui-même dans La nuit remue, « Quand vous me verrez, allez, ce n'est pas moi. » Il fuit les photographies, il ne cherche pas à se montrer, mais à s'envisager intérieurement et artistiquement. Cette exposition met à jour la complexité intérieure, la richesse imaginaire et fantasmagorique de l'artiste. On est face à des huiles sur toile, des dessins, des lithographies étranges, colorées, qui stimulent notre inconscient et nous emmènent dans des rêves diurnes. Les traits et les couleurs d'Henri Michaux, associés à quelques fragments de ses textes, conjuguent l'instinctif, le douloureux, l'épouvantable, la haine de soi, l'étrange, la beauté et la poésie. Grand voyageur, Michaux a puisé en lui-même et en ses pérégrinations pour inventer un univers peuplé d'êtres et de formes, d'émotions, de mots et de fantômes. Une cohue, un joyeux tohu-bohu dont il nous honore et qui chahute des endroits en nous-mêmes plus profonds qu'on ne pourrait le penser.
Le Centre Pompidou présente la première exposition en France de Cy Twombly depuis sa mort en 2011, mais également la première rétrospective de cette ampleur. C'est difficile de définir le style de cet artiste qui joue avec l'écriture, avec l'histoire, la mythologie. Le commissaire de la rétrospective, Jonas Torsv, qu'il a d'ailleurs connu personnellement, en parle comme d'un peintre qui, je cite, « a su relier la grande tradition américaine de l'expressionnisme abstrait à la peinture d'histoire européenne ». L'expressionnisme abstrait, on le voit dans son geste de peinture, les éclaboussures du début à la Pollock, son jeu avec les écritures, ce qu'on pourrait même qualifier de gribouillis comme une écriture automatique. Et puis, son œuvre prend vraiment forme, je trouve, dans les salles qui suivent. L'artiste travaillait par cycle et par série. Les séries n'ont pas de contenu narratif, contrairement au cycle, lié à la grande tradition de la peinture d'histoire européenne. Pour la première fois, trois grands cycles sont présentés en entier. Nine Discourses on Commodus, donc 9 discours sur Commode, 50 Days at Ilium, 50 jours à Ilium, et Coronation of Sésostris, le couronnement de Sésostris. On a donc décidé de décrypter ces trois grands cycles pour aborder l'œuvre de Cy Twombly. Alors Marion, tu as choisi de nous parler de Commodus, Commode.
Oui, 9 discours de Commode. Donc, comme tu l'as dit précédemment, Cy Twombly est fasciné par les mythes gréco-latins et il les réinterprète dans ses œuvres. Et donc, Commode, c'était un empereur, fils et successeur de Marc Aurèle. Et à l'image de Néron ou Caligula, on a retenu de lui un règne tyrannique, sanglant et extrêmement violent. Et Cy Twombly a choisi de faire référence à Commode pour parler du contexte des années 1960, 62-63 aux États-Unis. En 62, il y avait la crise des missiles de Cuba où on a failli être dans une guerre nucléaire. Et en 63, Kennedy a été assassiné. Donc à partir de ces... Enfin, pour exprimer ces traumatismes, cette époque extrêmement violente, il a représenté sur 9 toiles de 2 mètres peinte avec sur un fond gris, des espèces de spirales en haut du tableau, des spirales blanches qui vont du blanc au rouge pourpre, en passant par un dégradé de couleurs sur ces 9 toiles. Et, et ces touches de peinture, enfin ces tourbillons de peinture qui sont pleins de couleurs entre le jaune, le orange, le rouge, sont sur, on voit à l'arrière de ces touches de peinture des traits géométriques, des axes géométriques ou des quadrillages, et on peut penser donc que ces spirales représentent une explosion sanglante, une sorte de folie, de chaos qui explose sur la raison ou l'équilibre que pourrait avoir l'homme. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces peintures dégoulinent, ces couleurs dégoulinent, et on peut soit le voir, si on lit le tableau de haut en bas, comme donc des peintures qui dégoulinent quand des artistes peignent, ou bien si on lit, enfin c'est mon interprétation, mais en regardant la toile de bas en haut, ça me fait penser à des comme dans une BD où on représente les traits rapides d'un axe, enfin d'un objet qui va d'un axe un point A à un point B, comme des balles qui iraient vivement rencontrer un corps et qui exploseraient en sanguinolant. Ces neuf tableaux ont été mal reçus en 63 aux États-Unis parce que c'était l'époque où le goût était au minimalisme et au pop art, et ça a eu une grande répercussion sur le travail artistique de Cy Twombly, qui a arrêté de travailler, de faire des peintures avec des sujets historiques, et il a repris ça que 13 ans plus tard avec l'œuvre dont va nous parler Charlotte.
Agathe, moi aussi j'ai beaucoup aimé ce cycle-là. Bravo pour la description, parce que c'est pas évident. C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir une échelle de la violence devant les yeux. Et ce qui est assez bluffant, moi j'ai trouvé, c'est le sens de la mesure. À la fois dans la sélection des couleurs et ce sens de l'équilibre qui fait que à aucun moment, bien que effectivement c'est placé très légèrement au-dessus du milieu en fait ces motifs et qui sont dégoulinants, mais à aucun moment on a l'impression que la toile va s'effondrer, quoi. Il y a une construction,
il y a une pesanteur des tourbillons, enfin des spirales,
et puis d'avoir réussi à réunir tous les tableaux comme ça dans une même salle,
ça,
moi j'étais scotchée.
Oui, parce que il faut dire que lors de l'exposition en 63 aux États-Unis, ça a été mal reçu, mais aussi en fait les tableaux n'étaient pas mis côte à côte, alors qu'en fait il y a une narration dans ces tableaux.
Tout à fait.
Donc le public ne pouvait pas y être réceptif.
Et en fait,
à l'époque,
on retrouve un peu ce dispositif après, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans son travail, c'est que ce sont des séries qui ne sont jamais répétitives.
Non.
Et après, j'ai remarqué que la série, les œuvres, elles sont conservées aussi au Guggenheim de Bilbao. Oui. Donc j'imagine qu'il les propose aussi dans cette expérience immersive permet de, à 180 degrés, presque profiter complètement de ce geste magnifique.
Et ce que tu disais, ce qui te fait penser un peu à la BD aussi, je trouve que ça revient dans ces autres toiles.
Il a des styles très différents.
Donc 13 ans plus tard, je me tourne vers toi Charlotte, 13 ans plus tard, c'était donc 50 Days at Ilium.
Voilà, donc nous sommes en 1978 et nous sommes face à un nouveau cycle de 10 toiles qui cette fois sont inspirées de la lecture de l'Iliade du poète Homère qu'a faite Cy Twombly. Donc, donc la référence littéraire fait écho aux 50 derniers jours de la guerre de Troie. Guerre de Troie, connue notamment pour les grandes figures qui en ressortent, comme Achille et Hector, qui en sont en quelque sorte les deux principaux protagonistes, deux rivaux. Donc la guerre de Troie, rappelons brièvement, elle oppose les Grecs aux Troyens, qui sont en guerre pour un motif qui pourrait nous sembler un peu dérisoire aujourd'hui. À l'origine, c'est l'enlèvement d'Hélène par Paris qui est le frère d'Hector. Donc... Cy Twombly choisit d'appeler ses toiles 50 Days at Ilium. Ilium qui fait référence au terme Ilium qui désigne la ville antique de Troie. Et donc en fait il y a un jeu de mots ici, il emploie le A pour faire écho à Achille. Achille qui est très présent dans ces 10 toiles et qu'on retrouve, donc la lettre A qu'on retrouve d'ailleurs à plusieurs reprises. Même tout au cours de l'exposition.
Et sur tous les tableaux dans la série, voilà, souvent la lettre.
Oui, tout à fait. Donc c'est aussi une série qui est marquée par la couleur rouge, qui symbolise la violence de cette guerre de Troie. Et on peut aussi souligner l'aspect narratif, une fois de plus, de ces toiles qui relatent différents épisodes assez précis de la guerre de Troie. Donc on a notamment, on peut parler de la toile centrale qui s'attache à représenter les ombres d'Achille, Patrocle et Hector, qui sont trois des principaux, encore une fois, trois des principaux protagonistes. Donc c'est une toile emblématique, on est face à trois formes qui sont un peu semblables à des... comme des boutons de fleurs. Voilà, enfin moi c'est comme ça que je les vois. Ouais. Et le premier est rouge. Ensuite, on a un dégradé vers le gris et vers quelque chose d'un peu translucide, blanc, comme si en fait le sang s'asséchait, s'évaporait même.
Peut-être qu'il faut préciser à l'auditeur que Saé Tombly, à l'époque, vit et travaille en Italie. D'où son intérêt pour l'Antiquité grecque.
Tout à fait. Charlotte.
Voilà, je trouve que c'est intéressant d'avoir une nouvelle fois cette alliance entre, quelque sorte, tradition et modernité. Tradition par le fond, par ce matériau mythologique, et modernité par la forme, car on a une forme abstraite avec des lettres, des peintures de signes géométriques, des symboles, l'inscription de mots. Voilà,
Il réinvente la peinture d'histoire.
Tout à fait.
Oui, et ce qui fait, moi j'ai eu ce sentiment-là que... Agathe. Qu'on adore, en fait. C'est-à-dire que ça correspond à un esthétique aussi de notre époque, à nous, là, actuellement, et qui étonne même quand on apprend que dans les années 60, les toiles étaient décriées, en fait.
Ouais.
C'est assez bluffant.
Ouais, tout à fait. Marie-Hélène,
oui.
dernier cycle.
Oui, tout à fait. Alors, le dernier cycle, comme tu l'as dit, c'est Coronation of Sesostris, donc qui commence à partir des années 2000. Donc, c'est un autre grand cycle de la peinture de Saé Tombly. Il s'inspire cette fois de Sesostris, qui est un roi légendaire d'Égypte ancienne, mais aussi du mythe de Ra, le dieu du soleil. Donc, c'est une grande série composée de 10 panneaux, qui sont d'ailleurs de tailles différentes, parce qu'il les a composés... un peu séparés dans le temps. Donc ces tableaux suivent le cheminement de Ra qui traverse le ciel à bord de sa barque solaire, de l'aube jusqu'au bout de la nuit. Donc c'est une œuvre poétique aussi puisqu'il associe le pharaon Sesostris avec des vers de poètes antiques comme Sappho et Alcman. Et on a aussi des vers d'une poétesse plus contemporaine qui s'appelle Patricia Waters. Donc le cycle débute avec des toiles plutôt lumineuses, avec une dominante de jaune et de rouge parce que ça rappelle justement le soleil. Et elle se termine par une peinture en noir et blanc qui évoque Eros cette fois et qui est extrait et qui est en lien avec un extrait de poème de Sappho. Donc voilà, c'est une série avec des formes abstraites, mais aussi qui se démarque par son côté narratif, comme on a pu le dire tout à l'heure. Donc c'est une série très très intéressante.
Agathe.
Et juste avant cette série, si je peux me permettre, moi j'ai adoré trois tableaux qui se trouvent être en vis-à-vis avec en plus la ville de Paris, parce qu'on a ce surplomb
magnifique de l'exposition. Ouais.
Oui, qui s'appelle Bassano in Taverna, nom de la maison.
Ils sont magnifiques, moi aussi, je les ai trouvés super.
Ils sont incroyables. Et là, moi j'ai presque eu le sentiment de toucher au mystique. C'est-à-dire que c'est un travail sur le vert et en fait de profondeur et l'intrusion d'une lumière un peu surnaturelle. Blanche, c'est absolument à tomber par terre. Et en fait, la forme de ces panneaux peints reprennent un peu les panneaux qu'on retrouve dans les décors, soit des maisons anciennes du 18e siècle, soit en fait des plafonds aussi de maquettes d'églises qu'on retrouve assez souvent. Donc on a ce mélange d'une peinture religieuse qui n'en est pas une, qui prend la forme du cadre, en tout cas, et qui, pour moi, a été un peu une révélation.
Bon, on est d'accord que cette rétrospective, elle est merveilleuse.
Oui.
Allez-y, vraiment, courez. Donc, elle est à voir. En plus, il vous restera donc un mois. Elle est à voir jusqu'au 24 avril 2017 au Centre Pompidou. Et tout de suite, c'est l'heure de la chronique photo de Marie-Hélène.
Vous, ce qui vous intéresse, c'est un monstre inquiétant.
Non, c'est pas aussi simple que ça.
Vous voulez le voir dans le tableau.
Pas forcément. Hein.
Alors aujourd'hui, je vous propose de voyager dans le temps avec l'exposition d'un photographe mythique, Henri Cartier-Bresson. Sa fondation, expose des photographies tirées de son célèbre ouvrage Images à la sauvette. C'est une œuvre importante parue en 1952 et considérée comme la Bible des photographes, pour reprendre les mots de Robert Capa. On se souvient aussi de sa couverture peinte par Matisse alors qu'il était à l'apogée de sa carrière. Donc, Images à la sauvette, c'est l'aboutissement du travail d'un photographe exceptionnel, des photos en noir et blanc uniques, des instants de vie capturés à la volée, suspendus à jamais dans le temps. L'exposition revient d'ailleurs sur le quiproquo associé au terme d'instant décisif qui caractérise les photos d'Henri Cartier-Bresson. Il ne s'agit pas en fait d'une norme de la photo, ni d'un beau moment où tout serait parfaitement en place, comme un instant à ne pas manquer. C'est plutôt un enregistrement de la réalité,
un miroir, non pardon, ce n'est pas justement un enregistrement de la réalité, mais plutôt un miroir de la mémoire, quelque chose qui fait ressurgir le passé. Donc c'est une conception qu'on peut rapprocher de la théorie de l'instant fécond en art, puisqu'une œuvre ne peut saisir qu'un seul moment dans un épisode, il faut justement choisir l'instant le plus fécond, celui qui fera le mieux comprendre au spectateur l'instant qui a précédé cette représentation et celui qui suivra. Donc cette exposition met à l'honneur une interprétation d'abord intime, puis plus observatrice et documentaire du monde qui entoure Henri Cartier-Bresson, des images à voir et à revoir jusqu'au 23 avril.
Ce qui vous intéresse, c'est un monstre inquiétant ou...
Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est
le monstre, vous voulez le voir dans le tableau?
Pas forcément, hein.
Alors, on n'a plus beaucoup de temps, mais pour finir l'émission, comme chaque mois, on fait un petit tour de table des coups de cœur. Du coup, je vais commencer, parce que donc j'en ai un gros. C'est au Centre de création contemporaine de Tours, qui a été créé en 1984 par Alain-Julien Laferrière, et qui fait peau neuve. À la suite de la donation de l'artiste tourangeau Olivier Debré, le centre s'est installé depuis le 11 mars dans un nouveau bâtiment construit spécialement par les frères R.S. Mathéus. Pour l'exposition inaugurale, le centre accueille des œuvres de l'artiste, donc Olivier Debré, en provenance de quelques musées norvégiens, pour certaines jamais montrées en France. C'est vraiment des œuvres magnifiques. Olivier Debré avait beaucoup voyagé dans ce pays nordique et il en a ramené des toiles merveilleuses réalisées sur place. Ces séries, moi je les vois un peu comme des variations, comme les nymphéas de Monet, sont très bien mises en valeur dans la galerie blanche du nouveau bâtiment, qui est conçu comme une promenade. On a une série de toiles sous la neige qui fait face à des aurores boréales, c'est magnifique, et ça répond à la chambre d'huile réalisée par l'artiste Père Barclay dans la nef. À voir jusqu'en septembre 2017. Les autres coups de cœur, du coup, Agathe, peut-être ?
Oui, ça sera rapidement une expo Mapuche, qui est absolument superbe, au musée donc, de l'Homme, qui parle de ces peuples qui ont été rencontrés par les conquistadors en Amérique australe, qu'on a appelé les gens de la terre, ou plutôt Araucans pendant longtemps, et qui ont été évidemment expulsés par les Chiliens et les Argentins par la force, spoliés au XIXe siècle, jusqu'à 90% de leur territoire. Et là, c'est une exposition de photographie qui est très intéressante et très très belle, qui propose en fait justement de retourner ce regard qui a été trop longtemps porté sur ces peuples. Et en fait, vous allez pouvoir vous interroger sur... grâce au collectif Rituel Inhabituel qui associe Florencia Grisanti et Tito González Garcia, qui sont les artistes du collectif, sur qu'est-ce qu'on va voir au musée, est-ce que c'est un objet, est-ce que c'est un savoir, est-ce que c'est une croyance, et qui vont donc retourner ces photographies qui seront faites juste par les gens, en fait, d'eux-mêmes et de leur propre culture, et plus par l'étranger qui a ce regard assez inquisiteur, évidemment, sur l'objet qu'il veut représenter et qui a servi au XIXe siècle à classer les espèces, enfin les peuples, comme si c'était des espèces animales.
Très bien. Charlotte ?
Alors moi, mon coup de cœur, c'est Peindre la banlieue de Corot à Vlaminck, 1850-1950. Donc c'est une exposition à retrouver à Rueil-Malmaison à l'atelier Grognard. Donc c'est la première fois que des œuvres de cette période sont regroupées sous ce thème. Vous pourrez retrouver 150 toiles qui raviront les férus d'impressionnisme ou d'art moderne. On y retrouve du Caillebotte, du Cézanne ou encore du Picabia. C'est aussi un moyen de découvrir la banlieue au tournant des deux siècles, ce qui n'est pas inintéressant. L'exposition met en lumière la tension entre la nature sauvage, enfin cette volonté de retour à la nature sauvage et l'essor massif de l'industrialisation. Mais dépêchez-vous tout de même d'y aller, car l'exposition est en place jusqu'au 10 avril.
Marie-Hélène ?
Alors moi, pour terminer, c'est un coup de cœur à la Cité de la mode et du design. Donc on a une exposition du photographe de mode Erwin Blumenfeld. Donc cette exposition représente toutes ses recherches d'identité à travers la photo en couleur dans les années 40 et 50. Donc on présente 170 images issues de plus de 600 archives, des photos de mode et aussi une immersion dans l'univers d'un studio photo avec des photos très esthétiques et un art du cadrage vraiment exceptionnel. Donc c'est à voir jusqu'au 4 juin.
Museum Side, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Johan Gourmel et à vous les filles, Agathe, Marie-Hélène, Charlotte et Marion, ainsi qu'à notre réalisateur Julien, qui a gentiment remplacé Louis-Julien ce soir. Merci de nous avoir suivis sur le 93.9 FM et sur Internet.
Si vous voulez retrouver toutes les infos sur les différentes expos dont nous avons parlé, n'hésitez pas à aller sur notre page Museum Side, sur le site de Radio Campus Paris, et suivez-nous sur Facebook et sur Twitter. On vous retrouve le dimanche 30 avril à 20h. On parlera de deux anniversaires, le centenaire de la mort de Rodin et les 40 ans du centre Georges Pompidou. Restez avec nous.